Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43 dans un instant, c'est le petit déjeuner de l'actu comme tous les matins. Ce matin, c'est Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Vos appels au 0826-300-300. On va revenir sur les commerçants, si toutefois on était reconfinés. Est-ce que vous pensez que les commerçants doivent rester ouverts, quoi qu'il en soit? Vous nous répondez, si vous êtes commerçant, c'est encore mieux. Et en attendant, mais qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est la revue de presse avec, avec Benjamin Glaise.
Benjamin, alors que le Beauvau de la sécurité a démarré hier, Gérald Darmanin dévoile ses pistes pour moderniser la police dans Le Parisien aujourd'hui en France, c'est une interview ce matin.
Oui, on en a déjà parlé dans le Grand Matin sur Sud Radio, mais plusieurs objectifs, notamment celui-ci, doter la police d'une véritable réserve opérationnelle, aussi importante que celle de la gendarmerie. Actuellement, dans la police, on compte 5000 réservistes, dont 90% de retraités. L'idée serait de la rajeunir et d'atteindre le chiffre des 30 000 réservistes. Autre annonce, 10 000 stages et contrats d'apprentissage au ministère de l'Intérieur pour rapprocher jeunes et police. Des stages d'une semaine à 6 mois, accessibles aux collégiens, aux apprentis, mais également aux étudiants. Gérald Darmanin promet pour ce Beauvau de la sécurité une loi avant l'élection présidentielle.
Oui, c'est ça. La crise sanitaire est aussi à la une, évidemment, des journaux, avec la Dépêche du Midi qui parle de cacophonie au sujet du reconfinement.
Et oui, les informations contradictoires sur un possible troisième confinement exaspèrent les Français, selon la Dépêche. La Dépêche qui se demande si le gouvernement a perdu la maîtrise de sa communication. En tout cas, le président du Conseil scientifique continue, lui, de communiquer. On n'est pas à une semaine près, lance Jean-François Delfraissy dans Libération ce matin. Des propos quelque peu à rebours de ce qu'il affirmait dimanche soir à la télévision. Mais face aux variants, il continue d'affirmer qu'un reconfinement est devenu inévitable. Et puis un retour dans ce contexte de crise sanitaire, on vous en avait parlé, celui des étudiants qui reviennent en petit comité dans les amphis. C'est la une de l'Éclair des Pyrénées ce matin à l'université de Pau. Eh bien, la première année ont pu revenir hier sur les bancs de la faculté uniquement pour les travaux dirigés.
Oui, un abandon à la une du Figaro. Emmanuel Macron est en effet sur le point d'abandonner sa réforme de la proportionnelle.
Oui, la réforme du mode de scrutin n'est plus jugée prioritaire. Agenda trop chargé, la proportionnelle dès les législatives de 2022. Ça figurait pourtant dans le programme du candidat en 2017. Et cet abandon, eh bien, il fait au moins un mécontent chez les proches du président. C'est François Bayrou qui donne de la voix dans le Figaro. Il demande un référendum pour sauver cette mesure. On a vu ces dernières années des scores majeurs par million de suffrages à l'élection présidentielle se solder par 1% des sièges à l'Assemblée.
Oui, merci à vous, Benjamin. Il y a aussi un mot, peut-être, des frères ennemis à la une de l'équipe qui va nous faire la transition avec la Provence.
Hein. Ben oui, parce qu'on parle en l'occurrence de l'Olympique de Marseille avec des contre-performances sportives. On en parlera, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement ces relations difficiles entre deux joueurs clés de l'effectif, avec Florian Thauvin qui reproche notamment à Dimitri Payet d'avoir accepté des conditions salariales à la baisse. Ça brouille donc les relations entre deux joueurs importants de l'effectif.
Oui, absolument. Merci. La Provence, justement, nous sommes avec Frédéric Chetin qui est chef des informations générales à La Provence. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous.
Alors vous avez mis en une de La Provence ce matin une passion confinée, hein, c'est ça?
Ah oui, c'est ça, mais c'est où, le titre plus exact serait « Des passions confinées », parce qu'on fait le tour des supporters, uniquement des supporters de football, des supporters de rugby, des supporters de hand, et partout le constat est le même, le Covid, le confinement, le couvre-feu, ils n'en peuvent plus, quoi, ils n'en peuvent plus. Alors, à l'OM, ça se traduit bien évidemment, l'OM, vous savez, ici à Marseille, c'est un chaudron où tout le monde se retrouve, tout le monde partage une même passion, et les supporters, que ce soit les clubs de supporters, comme les Dodgers, les MTP ou les South Winners, plus personne ne supporte ce confinement. Tout le monde dit, mais il faut en finir, il faut qu'on trouve des solutions, quitte à ce que ça soit difficile, mais il faut qu'on puisse se retrouver, il faut qu'on puisse recommuner autour d'une même passion, parce que regarder les matchs chez soi, sur le grand écran, c'est bien, mais appeler les copains, c'est bien, mais vivre cette passion avec les copains dans le bar avant, commenter les choix d'entraîneur avant, commenter les résultats de l'équipe après, c'est autre chose. Alors, pour essayer de meubler un petit peu le stade, certains, comme les South Winners, pardon, ou les Dodgers, ont mis des grands tifos, comme par exemple notre vaccin, notre passion, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, ce problème, ce manque de communion, le mot n'est pas galvaudé. On le retrouve aussi à Toulon auprès du RCT, le club de rugby.
Oui, c'est ça. Et alors ils vont jusqu'à créer quand même, alors vous avez dit des tifos colorés sur des sièges vides, c'est ce qu'on fait un peu dans les stades quand même, hein, malgré tout.
Ah, c'est tout à fait ça. Une fois encore, les supporters ici sont réputés pour leur extrême créativité. Il faut se souvenir, c'est, je vais rappeler un événement un petit peu triste, mais quand il y a eu les attentats de Paris, j'ai vu sur un pont à Marseille, en solidarité avec les victimes parisiennes, ici c'est Paris. Imaginez un peu ce que ça veut dire pour les supporters. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et ça, on le retrouve avec des messages de soutien au personnel hospitalier, des messages de soutien à tous les gens qui sont privés de stade. Et je vous l'ai dit, il y a des soirées qui sont organisées virtuelles, des soirées virtuelles, parce qu'on ne peut pas se retrouver. Et dans le même temps, les MTP, eux, font des maraudes pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. On voit une véritable mobilisation des supporters. Mais au-delà de cette mobilisation, ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est de pouvoir se retrouver au stade, de pouvoir partager ces moments. Un supporter disait que lui, ce dont il souffre, c'est que sa petite fille Julie, qui l'a amenée au stade, il ne peut plus l'amener. Ouais. Et donc, cette petite sera privée de souvenirs, sera privée de bruit, sera privée de joie, de passion. Et ça n'empêche pas, je vous rassure quand même, les supporters, via les réseaux sociaux, de continuer à critiquer et les joueurs et les entraîneurs du résultat du club.
Oui, merci. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un exemple, hein, évidemment, de ce que ça engendre, ces restrictions complètes, que ce soit évidemment sur du confinement ou sur des couvre-feux. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Chetin. C'est à lire ce dossier très intéressant ce matin dans la Provence.
Restez avec nous, 8h49, c'est le petit déjeuner de l'actu ce matin. Nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy.
Oui,
et vos appels, hein, 0826 300 300.
Oui, avec cette question autour du reconfinement, évidemment, on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup disent que les commerces devraient rester ouverts. Arlette Chabot, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre éditorial, hein, à 7h20, Emmanuel Macron recule en fait au maximum cette décision et il n'a pas envie non plus de prendre cette décision du confinement, malgré la pression des scientifiques. Il recule, même s'il y a la menace des variants, parce que pour l'économie, et puis il n'y a pas que l'économie, même c'est l'état psychologique du pays.
D'abord, le président de la République n'aime pas le confinement. Hein. On sait que le premier, il avait été contraint, effectivement la situation l'imposait. Le deuxième confinement allégé au mois de novembre, là aussi, il s'est fait violence pour effectivement l'imposer, mais dans des formes un peu différentes. Et là, une idée de troisième confinement, c'est quelque chose, évidemment, qu'il a du mal à accepter, même si il est finalement contraint en raison notamment de cette apparition des variants dont on parle tous les jours. Alors après, il y a l'économie, même si le gouvernement continue à dire le quoi qu'il en coûte va continuer jusqu'au moment où l'épidémie enfin s'atténuera, j'ose même pas dire disparaîtra, évidemment. Il y a l'état psychologique du pays. Le président, il sent très bien que les Français sont fatigués, usés, et comme d'ailleurs tous ceux qui sont dans la même situation en Europe, dans le monde, il n'y a aucune perspective, il n'y a pas de vraie lueur, puisque les vaccins, c'est le seul espoir, et on voit bien combien il y a de difficultés avec les vaccins. Donc, il attend, il veut des faits objectifs, c'est-à-dire des chiffres, le résultat de 15 jours de confinement avant de décider, avec des modalités forcément différentes, à la fois pour préserver l'économie et ne pas trop taper un peu plus sur le moral des Français.
Oui, oui. D'ailleurs, ça se sent sur les réseaux sociaux, puisque vous vous souvenez, ce week-end, il y a eu un hashtag « On ne se reconfinera pas ». Et là, on nous dit « Non, je crois que vous n'avez pas compris, il n'y aura aucun reconfinement, car on ne l'acceptera pas ».
Oui, Elisabeth Lévy et Éric Revel, qui est revenu aussi avec nous. Oui.
Moi, c'est ce que je pense, Patrick, si vous me permettez de dévoiler un secret, je crois que j'ai gagné mon pari avec vous, parce que moi, ça fait un moment que je me dis qu'il n'y aura pas de troisième reconfinement, mais un peu par wishful thinking, c'est-à-dire comme beaucoup de Français, ça me paraît tout de même assez compliqué à supporter, et je dois dire que je suis assez choqué par le comportement de Jean-François Delfraissy.
Ah oui.
Enfin, écoutez, ça fait quand même une semaine ou trois jours qu'il va dans les médias. On doit faire ceci, on doit faire cela, comme si on l'avait élu. Hein. C'est le président Delfraissy. Et puis alors, en plus de tout, non seulement il fait ça, mais quand il se fait rappeler à l'ordre, tout d'un coup, hop, en 24 heures, il change de discours. Écoutez, franchement, c'est du foutage de gueule. Et moi, je dois dire que tout ce cirque avec ils vont dire ci, ils vont dire ça, avec tout le monde, la semaine dernière, tout le monde vous expliquait, on le sait, c'est décidé. Alors moi, je suis désolé, mais là, les médias ont une responsabilité dans le fait de casser le moral des Français en leur disant à l'avance des choses dont ils ne sont pas sûrs. Et juste dernière chose, je pense que d'une façon générale, il faudrait quand même que tous ces politiques évitent les, et ces médecins évitent les conditionnels. Peut-être que le variant anglais serait plus mortel. Peut-être, écoutez, soit vous le savez et vous le dites. Soit vous le savez pas et vous le dites pas, mais il serait possible que ça ne sert à rien et ça angoisse terriblement les gens.
Alors c'est vrai, ça angoisse, mais c'est aussi parce que on est avec une inconnue et que eux-mêmes en font état. Et si les scientifiques ne s'exprimaient pas, je pense qu'on dirait ah là là, on manque de transparence. Hein, voilà,
enfin je mets une pièce comme dire, ça, mais on ne sait pas.
Eh ben, oui,
ils
oui.
peuvent s'exprimer et dire voilà, à ce jour nous ne savons pas.
C'est un peu ce qu'ils ont dit, du
non,
coup, en fait.
Non, parce qu'en fait, c'est très angoissant pour les gens, quand vous avez des Bien gens sûr. Qui voient à la télé qui disent « Vous comprenez, ce variant anglais, il serait plus mortel !» Deux jours après, on nous dit le contraire. Hein.
Éric Revel.
Oui, alors, je partage le point de vue d'Elisabeth sur Denis Frécy, qu'il se taise.
Qu'il se taise. Hein,
ouais. Bon, ça suffit. Enfin, un coup, il nous explique, le lendemain, il dit le contraire. Et puis juste, moi, je donne pas de conseils à la presse, à mes confrères et à mes consoeurs, mais que le JDD qui donne le tempo le dimanche pour toute la semaine vérifie aussi un peu ses infos. Le JDD nous expliquait que c'était sûr que le confinement c'était pour cette semaine et que d'ailleurs Macron allait prendre la parole mercredi, puis on apprend hier qu'en fait il prend pas la parole et que le confinement n'est pas sûr.
Ouais.
Deux choses à mon avis essentielles. Un, ce qu'a dit Arlette tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'acceptabilité maintenant aussi du confinement. On voit ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a un risque pour Macron aussi de prendre une décision sur un troisième confinement qui se solderait par une acceptabilité, comme on dit, pas du tout forte dans le pays et donc des mouvements sociaux. Et puis, deuxième sujet, je regrette, c'est ce fameux sondage dont je parlais tout à l'heure, Patrick.
Oui.
C'est que, en réalité, on voit bien que le tissu des PME et des TPE risque de disparaître dans notre pays. Or, ce qui fait l'emploi et une grande partie de la croissance en France, c'est pas vrai en Allemagne, mais en France, c'est justement les PME et les TPE. Et quand vous voyez que plus de la moitié des PME qui ont contracté les fameux prêts garantis d'État disent qu'elles ne pourront pas le rembourser, le risque, c'est que ces PME disparaissent. Et sans ces PME, sans le tremplin des PME, il n'y aura pas de rebond de la croissance. Voilà, à mon avis, pourquoi vous avez cette fracture au sein du gouvernement, avec visiblement du côté du ministre de l'Éducation, Blanquer, qui dit on ne ferme pas les écoles, et du côté de Bercy, Bruno Le Maire, qui dit à Jean Castex et donc à Emmanuel Macron, attention, le risque du troisième confinement, au-delà de l'acceptabilité, c'est de voir disparaître une
la
partie
faillite,
du tissu des PME.
Ouais.
Et sans ces PME, il n'y a pas de tremplin, il n'y a pas de rebond de croissance.
Éric, je peux poser une question, Éric ?
Vous parlez de la presse et du JDD. Je ne défends pas le JDD et je ne défends pas la presse. Voilà, ce n'est pas du corporatisme de bas niveau. Mais c'est vrai que cette presse reflète les débats à l'intérieur du gouvernement. C'est-à-dire que du côté de Matignon et du côté du ministre de la Santé, si on annonce et qu'on prévoit comme inévitable à terme, à un moment ou à un autre, le reconfinement, c'est parce que du côté, du ministère de la Santé, vraiment, on pousse à ce confinement. Donc, il y a des tensions et des divergences au sein du gouvernement, c'est évident.
Justement, si vous voulez, c'est qu'en fait, ils sont un peu instrumentalisés, enfin, nous, collectivement, on est instrumentalisés, si vous voulez, pas. Mais ça, c'est le jeu, c'est un peu aux journalistes aussi de faire attention à ça, parce qu'en fait, chacun, comme ils ne sont pas d'accord, et que contrairement à ce qu'on croyait, la 5e République n'est pas une monarchie, et que visiblement le président n'impose pas. Écoutez, moi je suis frappé par ça. Hein. Le président, visiblement, est défait souvent par ses propres arbitrages, si je comprends bien.
Je ne sais pas, Arlette, non.
Depuis le début, il n'a pas écouté.
Mais
juste.
Y a des tensions, attendez. Essaye de faire pression sur
le
président.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le dernier, quand ils ont fermé les commerces, excusez-moi, jusqu'au dernier moment à l'Élysée, on me disait mais non, le président est contre, et il a cédé devant Castex et Véran et leur risque pénal que lui n'a pas, si vous voulez. Mais de fait, on n'a pas à se laisser instrumentaliser, si vous voulez, par des gens qui testent leur théorie. Eric a raison. Le JDD était même pas au conditionnel, c'était affirmatif, et donc depuis depuis trois jours, enfin depuis le dimanche, tout le monde dit ah oui, ça y est, c'est acté.
Ouais. Bon, bah. Bon, ouais, c'était pas aussi clair que ça. Allez, merci en tout cas, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Eric Revel. Dans un instant, la parole en fait aux auditeurs 0826 300 300. Et puis nous aurons aussi un virologue pour comprendre pourquoi l'Institut Pasteur a abandonné ses travaux pour son principal projet de vaccin contre le Covid 19. Et puis après,
Alain Duhamel
qui connaît parfaitement le monde politique depuis des années et des années, une quarantaine d'années au moins.
Qui en a vu des présidents.
Qui vient d'écrire Emmanuel Le Hardy. Alors, il revient sur la définition de, justement, Emmanuel Le Hardy, pourquoi il a appelé, en fait, ainsi. Et puis, ensuite, il balaye aussi le paysage politique actuel et toutes les hypothèses autour de 2022. Livre particulièrement intéressant, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais il sera avec nous et ça vaut le coup de l'entendre tout à l'heure aux environs de 9h15, 9h20. Et pour, vous pourrez
et
évidemment, bien sûr,
pour lui
réagir.
Poser des questions, bien sûr, 0826, vous le savez, 300, il sera ravi de vous répondre. Et nous, on revient dans un instant, juste après les infos de 9h. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans le petit déjeuner de l'actu. L'Institut Pasteur abandonne ses travaux pour son principal projet de vaccin pour le Covid-19. Où en est la recherche française? On en parle ce matin avec Jean-François Saluzeau, qui est virologue, consultant en virologie et développement de vaccins auprès de l'OMS.
Oui, bonjour Jean-François Saluzeau. Bonjour. On avait des réactions d'auditeurs aussi à notre débat. Donc on va entendre Adam, qui patiente depuis quelques minutes, et on va vous entendre aussi, Jean-François Saluzeau. Bonjour Adam.
Bonjour.
Vous êtes au 0826 300 300. Vous vouliez réagir, notamment nous dire qu'on ne compare pas suffisamment bien les données, c'est ça, entre par exemple la France et la Belgique?
Mais, en fait, oui, c'était pour dire qu'il y avait quand même des choses qui passaient, des informations qui passaient un petit peu inaperçues en France, mais comme en Belgique. Et puis, c'est très bien que vous ayez un virologue qui pourra peut-être répondre à ce que je vais dire là.
Oui.
Si vous voulez, il y a une information qui est sortie sur le journal de la RTBF, donc une des principales chaînes francophones belges. C'est sorti, donc vos auditeurs peuvent aller vérifier ce que je dis. La date, c'est le 8 décembre 2020.
Ouais.
Et c'est une information qui est sortie en Belgique, mais qui vient des Pays-Bas.
Ouais.
Et c'est l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement, voilà, qui l'a sorti. Et eux, apparemment, ils auraient fait une étude, donc c'est eux qui conseillent le gouvernement des Pays-Bas. Donc je pense qu'ils sont assez légitimes dans ce qu'ils disent.
Ouais.
Et en fait, ils auraient sorti une étude qui explique que si les restaurants restent ouverts, eh ben, le taux de contamination diminue.
Oula.
Voilà. Et alors, en fait, l'explication que j'ai lue dans l'article, après j'ai pas pu faire plus de recherches parce que je ne parle pas le néerlandais, l'explication qu'il donne dans l'article, c'est que, en fait, ça, si les restaurants restent ouverts avec évidemment les mesures sanitaires mises en place au sein des restaurants, ça oblige les gens à sortir de chez eux.
Ouais.
Et donc, en fait, eux disent que c'est très bien parce que les contaminations se font surtout dans les lieux clos. Le foyer familial étant un des principaux foyers de contamination.
Alors,
quoi.
Oui, non mais alors, ça c'est vrai en fait de ce point de vue. Après, la difficulté, c'est qu'il faudrait que partout dans les restaurants, il y ait des mesures en fait assez strictes et les protocoles renforcés. Jean-François Saluzeau, peut-être, alors on vous appelle avant tout sur les vaccins, mais sur ce que dit Adam, là, qui était sorti dans la presse, donc visiblement en Belgique.
Bah écoutez, c'est encore très difficile, je veux dire, une information de presse, c'est intéressant, mais il faut quand même vérifier les informations scientifiques et qui quand même ont tendance à montrer que dès que l'on regroupe des personnes, en particulier avec sans porte-masque, il y a un risque de transmission. Quoi. Donc je ne pense pas que ce soit la solution.
Oui, la solution c'est respect des règles sanitaires et les restos pourraient être ouverts, mais il faudrait prendre des distances, comme ça s'est fait dans certains pays. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Venons-en quand même aussi. Merci à Adam donc, qui nous appelait de la Marne avec un petit accent belge au passage, qui n'a pas échappé à Cécile de Ménibus. Jean-François Saluzeau, l'Institut Pasteur qui abandonne donc ses travaux pour son principal projet de vaccin contre le Covid, ça veut dire quoi? Évidemment, c'est très complexe de trouver justement un vaccin et que la recherche française est peut-être un petit peu en retard.
Non, je pense pas que ce soit un problème de pays ou de nationalisme quelconque, c'est-à-dire qu'effectivement, difficile habituellement de trouver un vaccin, pour mettre au point un vaccin. Vous savez, il sort un vaccin nouveau tous les 10 ans à peu près. Donc là, par une coïncidence assez extraordinaire, les deux premiers vaccins construits sur le même principe ARN messager donnent des résultats très satisfaisants. Il faut se rappeler quand même que ça fait près de 20 ans que des essais sont faits avec des vaccins ARN messager sans succès. Et là, par une coïncidence assez extraordinaire, les vaccins marchent. Alors, en ce qui concerne l'Institut Pasteur a développé un concept, c'est-à-dire ils utilisent le virus de la rougeole comme vecteur de gène. Ils ont une plateforme dédiée à ceci. Eux, l'Institut Pasteur, n'ont pas les capacités pour produire le vaccin. Donc, ils se sont alliés avec un géant de la pharmacie, c'est le laboratoire Merck, qui a développé, qui a constaté que les réponses immunitaires n'étaient pas suffisantes, alors que les effets secondaires étaient négligeables. Donc, si vous voulez, il aurait fallu peut-être travailler plus l'ajustement de ce vaccin, ce qui se fait habituellement. Mais vu la pression qu'il y a, vu la course qu'il y a, vu le fait qu'il y a déjà plusieurs vaccins sur le marché, il est assez raisonnable pour le laboratoire Merck d'abandonner ce projet.
Oui, c'est ça. Alors que Sanofi continue dans le même temps, et Sanofi qui a annoncé que son vaccin pourrait être prêt uniquement à la fin de l'année.
Oui, alors Sanofi, le problème est tout à fait différent. Sanofi a fait un travail habituel, c'est-à-dire que ils ont des vaccins qu'ils produisent contre la grippe aux États-Unis. Ces vaccins sont faits selon une nouvelle technologie. Donc, ils ont utilisé cette technologie, l'ont adaptée au vaccin du Covid. Ils ont rajouté en plus un adjuvant très puissant développé par la société GSK, GlaxoSmithKline. Donc, ils se sont associés tous les deux. Le concept était tout à fait pertinent. On pensait que ça allait marcher très bien. Malheureusement, visiblement, la concentration en protéines est insuffisante, donc ils sont obligés de reformuler le vaccin. Mais ça, c'est une approche classique de tout vaccin, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en phase 2, c'est là où on doit reformuler les vaccins, on doit mettre plus, moins, vérifier que les populations âgées réagissent, etc. Par une coïncidence assez extraordinaire, les vaccins ARN messagers, eux, ont trouvé la bonne formulation dès le départ et ont enchaîné avec succès jusqu'au bout.
Oui, et ils seront modifiables comme les virus peuvent se modifier, enfin ils peuvent s'adapter également aux variations des virus.
Écoutez, là, je crois qu'il faut être très prudent dans cette communication. J'ai entendu effectivement Pfizer qui disait qu'en quelques semaines, il pouvait faire un nouveau vaccin adapté aux variants. Je crois que c'est pas une bonne communication parce que les patients peuvent considérer alors que ça sert à rien de se vacciner maintenant, qu'il faut attendre le vaccin. Non, pour l'instant, soyons très clairs, des vaccins, des virus ARN stables comme non génétiquement complexes, comme ce virus, comme ceux de la rougeole, etc. Les vaccins existent depuis 50 ans, par exemple la rougeole, les oreillons, la rubéole, alors que des variants apparaissent. Le problème, c'est que personne ne s'intéresse aux variants de la rougeole. Jamais personne n'a lancé une alerte sur un variant de la rougeole. Là, on scrute tellement de près le virus au jour le jour. Le fait qu'il y ait des variants, il y en aura encore, parce que là, vous voyez, il y en a de plus en plus. Et même si vous fermez demain les frontières de la France, vous aurez des variants mieux adaptés à la transmission interhumaine, c'est la biologie naturelle des virus. Donc je crois qu'il n'y a pas d'avoir d'inquiétude pour l'instant concernant le vaccin. Il faut continuer et ne pas lancer des craintes supplémentaires.
Et AstraZeneca, parce qu'il y a quelques doutes, notamment pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées.
Alors tout ceci, je pense qu'il faudra le voir sur une large campagne. Nous avons participé à une campagne ici de vaccination et c'est vrai que les personnes qui viennent se faire vacciner sont des personnes souvent très âgées. Ça n'a rien à voir peut-être avec ce qui est fait dans les études cliniques. Donc il va falloir vérifier, surveiller ce qu'on appelle la pharmacovigilance de phase 4, l'efficacité de ces vaccins. Il n'est pas impossible qu'on ait quelques surprises. Il faut voir que la population qui se présente sont souvent non seulement âgées, même très âgées, avec des pathologies chroniques importantes, et il est difficile de savoir ce que ça va donner.
Oui, et deux mots aussi sur les... Parce qu'on en parle régulièrement sans savoir véritablement s'ils sont très efficaces, des vaccins chinois et russes.
Alors, les vaccins chinois, le problème, c'est une technologie très classique, c'est-à-dire ce sont des vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, généralement, donnent à deux doses, doivent donner de résultats tout à fait satisfaisants. Il n'y a aucun problème au niveau des effets secondaires, ça doit donner des résultats tout à fait satisfaisants. Le problème, c'est que les capacités de production sont très limitées avec ces vaccins. Il est très difficile de produire de grandes quantités de ces vaccins, contrairement aux vaccins à ARN messager. Vous voyez très bien que les Chinois, avec les facilités qu'ils auraient au point de vue logistique, en sont à quelques dizaines de millions de personnes vaccinées, alors qu'il y a trois vaccins qui sont sur le marché. Je pense qu'ils ont des limites très importantes de production du vaccin. Quant au vaccin russe...
On a du mal à comprendre pourquoi des limites de production, connaissant les capacités et les moyens de la Chine.
Ben écoutez, ce sont des vaccins qui sont difficiles à produire, c'est-à-dire que quantitativement, lorsqu'on parle des vaccins inactivés comparables dans le monde, par exemple le vaccin polio, les plus grands industriels peuvent produire jusqu'à 100 millions de doses, mais il est très difficile de produire des milliards de doses. Ouais. Il faudrait multiplier par X le nombre d'usines, et une usine, c'est quand même c'est une usine pharmaceutique qui répond à des normes très précises, c'est long à construire. Donc je pense qu'ils ont des difficultés aussi en approvisionnement, comme semble avoir d'autres laboratoires. Ouais. Mais ça, c'est assez classique. Quant aux Russes, c'est un vaccin qui est très proche du vaccin de AstraZeneca, donc le principe est à peu près le même. C'est un vaccin qui, conceptuellement, pourrait être très intéressant.
Ouais. Merci beaucoup pour vos précisions, Jean-François Saluzzo, donc virologue et consultant en virologie et en développement des vaccins auprès de l'OMS. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.
Un appel aussi au 0826-300-300 avec Jean qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Jean.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Oui. Moi, je voulais réagir, non pas peut-être directement à ce qui vient d'être dit, parce que c'est très technique, j'en ai pas la compétence.
Mmh. Sur le reconfinement,
plutôt sur ce que vous avez, ce qui était discuté un petit peu avant, vous savez, sur le débat actuel et peut-être les contradictions. Moi, il me semble qu'on a juste besoin de confiance. On a besoin de confiance. On a besoin que le gouvernement nous inspire la confiance. Je pense qu'on a besoin que le conseil sanitaire nous inspire la confiance aussi, scientifique, pardon. Ouais, ouais. Et le problème survient dès lors que une personne de ce comité scientifique vient à la télé à une heure d'écoute. On peut imaginer qu'il vient soit avec l'autorisation de venir, soit s'il vient de son propre chef, ce qu'il va dire sera probablement validé par le gouvernement. Et il nous annonce quelque chose qui est effectivement assez anxiogène. Le lendemain, un ministre ou le président ou quelqu'un dit autre chose. Donc il faut voir que les Français, dont je fais partie, qui sont, soit abreuvés de nouvelles, soit qui choisissent de s'informer un petit peu moins pour peut-être être un petit peu moins inquiétés, ils ne savent plus trop quoi penser. Ouais. Et moi, ce que je comprends assez mal, c'est qu'on voit finalement se développer, je crois que c'était Elisabeth Lévy qui en parlait, des conflits internes au gouvernement, peut-être entre les autorités scientifiques et politiques, à l'extérieur. Mmh. Alors ça, c'est pas envisageable. Si vous regardez comment fait l'Allemagne, vous avez l'Institut Robert Koch, qui est un peu l'équivalent de l'Institut Pasteur, si vous voulez, qui tient les statistiques, d'une part, on y croit, et qui a un discours. Ouais. Voilà. Et la chancelière et le gouvernement se calent ou ne se calent pas. Mais à partir du moment où on dit c'est politique, la décision est politique, et par exemple la balance coût-avantage est politique, à ce moment-là, je vois pas pourquoi un certain nombre de scientifiques continuent à s'exprimer sur des éléments pour lesquels ils n'ont pas de certitude, on l'a rappelé, et qui effectivement ne ressortent plus totalement de leur propre rôle. Ouais. Donc je trouve que la confiance commencerait par un bon ordre de parole.
Oui, c'est vrai. C'est pour éviter la cacophonie, en fait, hein, Jean, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est ça.
Qu'on nous dise les choses et qu'on puisse y croire.
Oui, voilà. C'est vrai.
Ces deux obligations, me semble-t-il, légitimes.
Oui, complètement. Sachant qu'on est dans une période d'incertitude et que même les scientifiques, eux-mêmes aussi, sont plongés dans cette difficulté, aujourd'hui, face à un champ un peu inconnu, quoi, évidemment, et donc plus difficile à maîtriser. Merci en tout cas, Jean, merci Elisabeth Lévy, donc Éric Revel et Arlette Chabot, qui étaient aussi avec nous pour le petit déjeuner de l'actualité, ce petit déjeuner qui continue le grand invité.
Oui, avec Alain Duhamel, avec ce livre, Emmanuel Le Hardy reviendra sur une analyse de la personnalité, de la ligne politique d'Emmanuel Macron plus largement. C'était aux éditions de l'Observatoire. Vous pouvez bien sûr poser vos questions au 0826 300, 300, à tout de suite.